Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau ensemble pour notre émission « Je suis venue vous lire » sur JetFM. Alors aujourd'hui, nous souhaitions vous proposer un méli-mélo de textes et de musique déjà diffusés lors de nos précédentes émissions. Un mélange d'univers, de nuit, de voyages, de rencontres. Un patchwork de textes et de musique rien que pour vous. Aujourd'hui, je suis venue vous lire des lettres de femmes. Femmes d'aujourd'hui ou femmes d'hier, femmes mères, femmes en colère, femmes en lutte, femmes fidèles ou infidèles, en tout cas, femmes d'exception. Cris de colère ou de révolte, quelquefois lancés comme des bouteilles à la mer, relayés par le silence de l'histoire. Mais les bouteilles à la mer finissent parfois par arriver, et l'on découvre alors les messages qu'elles contiennent et leur capacité intacte de nous émouvoir ou de nous galvaniser. Voici une lettre de Farah Shama, poétesse d'origine palestinienne. Comment puis-je encore croire, alors que vous avez rendu la foi pire que le blasphème, au nom de la religion et de la piété, alors que vous élevez les peuples les uns contre les autres, alors que vous tuez et semez la corruption, vous qui, au nom de Dieu, faites des enfants des orphelins, vous qui, au nom de Dieu, avez volé, menti, détruit des foyers, simplement pour vivre dans des forteresses bâties des pierres de l'injustice et de l'esclavage. C'est à vous que je parle. Avez-vous quelque chose à répondre ? Parce que nous en avons marre de vos discours vides, nous en avons marre de vos poèmes, chansons et rengaines, marre de vos pseudo-réformes, de l'extrémisme, de la neutralité, marre de vos présidents, de vos conseils de sécurité, de votre leadership, de vos convictions religieuses et de vos reniements. Nous en avons marre, trop fatigués. Croyez-vous qu'il puisse exister une constitution crédible dans l'ombre de la tyrannie ? Je me suis assise près de moi. Mais je ne me suis pas reconnue. Moi aussi, j'ai été colonisée. J'ai au fond de moi une prison politique. J'ai au fond de moi une armée d'occupation. J'ai au fond de moi un homme armé et un autre obstinément arriéré. J'ai au fond de moi une femme qui murmure une lettre. Mais ces mots tombent dans des oreilles sourdes. À l'intérieur de moi, il y a des avions et des explosions. À l'intérieur de moi, il y a des adorateurs qui se plient devant Dieu et leur cœur ne s'adoucit pas.
Yeah.
Pour cette émission, j'ai choisi de vous parler de la nuit. Qu'elle fasse peur ou qu'elle porte conseil, la nuit nous enveloppe chaque soir dans sa vaste immensité. La nuit, c'est la preuve que le jour ne suffit pas. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Et puis, même la nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse. Alors, installez-vous confortablement. La nuit promet d'être belle. Voici un petit extrait du livre de Michael Fossel. Michael Fossel est philosophe. Il a écrit « Les étoiles consentantes ». Souvent, je me demande ce que je fais encore là. Seul ou entouré, dans le noir ou baigné par des lumières artificielles, dans une rue obscure ou aux abords d'une piste de danse. La même question. Qui suis-je? Moi qui veille. Dès l'instant où cette question se pose, je sais que la nuit est terminée. Lorsque je me demande pourquoi je suis restée si tard, j'imagine en effet que je pourrais être ailleurs, par exemple dans un sommeil qui me protégerait de cette fatigue qu'il faudra traîner tout au long du jour. Comme souvent, la question « qui suis-je ?» a des relents de morale. À 4h du matin, écrit Sébastien Mercier, qui était un écrivain, « il n'y a que le brigand et le poète qui veillent. » Autant dire des individus qui ont intérêt à l'anonymat. Mais moi, qui ne suis ni brigand, ni poète, je n'ai aucune raison d'être resté si tard. Exclu du sommeil du juste, j'ai sans doute quelque chose à me reprocher. À commencer par le fait d'être encore éveillé quand tout m'incite à déserter la nuit. Lorsque je me demande ce que je fais là, il est trop tard. Cela, cœur de la nuit ou du petit matin, je le vois déjà avec les yeux du jour. J'ai oublié alors ce qui m'a mené à la nuit. Les heures passées dans l'obscur, je les comptabilise, car il faudra les récupérer d'une manière ou d'une autre. Bref, au moment d'éteindre la lumière ou de rentrer, je compte, je compare et je juge. Rattrapé par l'heure, mon plaisir orgueilleux d'être présent à la nuit se transforme en malaise. Je me mets à réfléchir au temps passé, dans des termes qui le condamnent à être du temps perdu. Sans prévenir, ma nuit est devenue blanche. Dans ce temps sans calcul ni comparaison, je ne me demande pas ce que je fais encore là, mais je désire au contraire que la nuit ne se termine jamais. Mais je crains plus encore l'advenue du jour, avec ses exigences démesurées. En ce sens, je quémande des heures nocturnes supplémentaires. Je voudrais que le temps se fige et que la nuit ne s'arrête pas.
C'est l'heure des privilèges. L'heure du silence appuyé qui s'installe en maître comme un grand roi sur son siège. Vous vous couchez, elle se lève, elle, c'est dans le noir qu'elle voit. C'est dans l'ombre qu'elle commence à glisser sur les tuiles des toits. La nuit, la grande, la belle, ma complice et ma seule compagne, Isabelle. La nuit, la grande, la belle, je passerai. L'heure des murmures d'amour en cortège qui défilait, passait de ta bouche à ma bouche. Je voyais l'arbre dans la cour et la lune sur tes paupières qui se reflétaient. Quand tu dormais, j'écrivais des chansons d'amour. Toutes les émeraudes cachées des hommes, je te les donne. Toutes les opales et toutes les perles, des vagues de bleu qui déferlent. Je peux les faire surgir de terre, je peux les prendre aux océans. C'est la nuit, la grande, la belle, ma complice et ma seule compagne, Isabelle.
Beaucoup de poètes, d'auteurs ont écrit sur la nuit. Elle est leur source d'inspiration. Alors, voici un texte de Nima Yushin. C'est un poète persan. C'est un texte qui est tiré d'un ouvrage de poésie qui a été écrit entre 1920 à 1958. Et ce texte s'intitule « Il fait nuit ». Et il est donc tiré de cet ouvrage « Une voix dans la nuit ». Il fait nuit, nuit voisine et confidente des ténèbres. Sur une branche du vieux figuier, coasse la vague d'art, qui à chaque instant annonce l'arrivée de la pluie et de la tempête. Et cela m'inquiète. Il fait nuit, et le monde y repose comme un mort dans sa tombe. Je m'inquiète toujours. Et si la pluie débordait de partout? Si elle jetait à l'eau la barque entière du monde? Dans cette nuit imbibée d'obscurité, n'est-il pas absurde de songer à l'image du matin et de se demander s'il serait habillé de tempête au cas incertain où il se lèverait derrière la montagne? Thank you. aujourd'hui, on part en voyage. Voyage d'agrément ou voyage d'études, voyage forcé ou voyage initiatique. Il existe tellement de raisons de voyager. Il en existe autant qu'il existe de voyageurs. Mais peu importe la raison qui décide le voyageur à voyager, il est là, à cet instant, à cet endroit. Alors, attachez votre ceinture, on décolle.
Astrojet, whisper jet, clipper jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors je suis parti sur Québec Air, France World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu où j'suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés, dans les bois nos esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées par-ci. Et toujours ma Sophie qui venait de partir sur Québec Air, France World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu où j'suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument très salissant. Alors j'y parti sur Québec Air, France World, Nord, East, Eastern, Western, les Pan-American. Mais j'ai pu rendu. Ma Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis sur qui c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, France World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais j'ai pu. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Hey. Sur Québec Air, France World, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan-American.
Dans les steppes d'Asie centrale, au Tibet ou dans les forêts françaises ou à Paris, Sylvain Tesson marche, chevauche, escalade, bivouaque, soit dans un arbre ou sous un pont, construit des cabanes. Cet amoureux des reliefs en appelle à un nouveau nomadisme, à un vagabondage joyeux. Dans son livre « Petit traité sur l'immensité du monde », il nous invite à partager une philosophie de l'errance. Voici un extrait de ce très beau livre. La marche à pied transforme l'errant, mais moins que le voyage à cheval. Le voyageur à pied décide de tout, de ses actes comme de ses objectifs. Il est maître à bord de son voyage. Il pelote une troïka composée de son corps, de son âme et de son esprit. Sa volonté est le fouet de cet attelage. Le chemin se plie à ce qu'il décide. La fierté du bon marcheur est de ne pas trop laisser les événements décider de sa course. Il aime à les faire plier au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais pour peu qu'il se constitue chef d'une caravane de chevaux, la distribution des rôles changera. Subitement, il sera appelé à se soumettre. Il deviendra le pion d'une autre volonté. Il devra s'accorder à un rythme nouveau. Nous parlons ici du caravanier des temps modernes, pas de celui qui, sur les chemins de la soie, menait des cohortes d'animaux, dont beaucoup mouraient, épuisés par les cadences infernales du trafic de damasquins et d'argenterie. Au cours de chevauchées récentes, au Turkestan, en Mongolie, j'ai compris que c'est la bête qui commandait. On imagine la menée, elle imprime le tempo, elle bat la mesure du sabot sur le sol, et la cadence des journées de voyage. Dans la colonne, hommes et bêtes ont chacun leur place. Mais, pour tous, il n'y a qu'un seul rythme. Lent, régulier, inaltérable, le rythme nomade. Mener son cheval dans les immensités ne se réduit pas à donner de temps à autre un coup de bride à l'encolure ou un coup de talon au ventre. La chevauchée est un mode de vie. Elle demande de savoir trouver l'alpage au terme de l'étape, de détecter le clou qui joue dans la ferrure, de lire dans le crottin les signes avant-coureurs de la maladie, de guetter l'irritation sur le cuir avant que ne se déclenche la gonfle, de repérer le bon alpage qui n'est pas forcément le plus vert, d'abreuver son cheval avant la soif, de servir la ration de l'étalon avant celle des ongres, des ânes ou des mulets. Ce sont les devoirs que le cavalier doit rendre à sa monture afin que l'harmonie règne et que se maintienne le fragile équilibre. L'entente entre les bêtes est une condition nécessaire mais pas suffisante à la prospérité d'une caravane. La caravane, c'est la paix entre les bêtes, entre les hommes et les bêtes, mais surtout entre les hommes. Le voyage à cheval initie le cavalier à une nouvelle lecture du monde. Il l'aide à se fondre dans l'environnement. L'homme sur un cheval avance sans bruit, débarrassé de ses effluves carnivores. Chevaucher aiguise les sens, renforce l'acuité de l'observation. Le cavalier dispose des émotions que manifeste sa monture. Le point de fusion est atteint quand l'homme et sa bête réagissent en même temps, débusquent la bonne pâture ensemble, esquivent le danger ou l'embûche d'un même geste, sans concertation. C'est l'entente ultime, complicité qui permet à chacun de prévenir les humeurs de l'autre. Le cheval devient miroir des émotions du cavalier.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 mounted on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Amène en balade, on va prendre l'air. On part à la découverte de jardins. Jardin d'automne ou jardin d'hiver, petit jardin, jardin de banlieue, jardin de simple, jardin suspendu de Babylone ou jardin des mille et une nuits. Il en existe tellement des jardins, de toute taille, de toute forme, aux couleurs changeantes selon les saisons. On quitte Paris. Et en quittant Paris, on commence à apercevoir par la vitre du train des petits jardins, des jardins ouvriers, des jardins de banlieue. « Je m'en rappelle, disait Boris Vian, on vivait là, en banlieue. » En banlieue, des trains, des remblais et des gares. Et puis, on y est sans crier gare en banlieue. On quitte Paris dans la suie, et voilà les maisons fleuries de banlieue. L'été, il y a des lilas qui chantent sur des rythmes de valse lente, c'est ça la banlieue. Les petits jardins bien astiqués, les petits rentiers tout étriqués, les petites filles en robe de piqué et les petites rues mal indiquées, ben, c'est la banlieue. Tout près de Paris, dans la verdure, oh ma chérie, pourvu que ça dure ma banlieue. Je me rappelle, on était tout môme, tu vois, on vivait par là. Sens-tu le rosier qui embaume et les narcisses et les dahlias? C'est là, on pouvait pousser la barrière, on se croyait si loin de tout. Et la maison était pleine de lierre, et il y avait des oiseaux partout. Quelle était belle ma banlieue.
Il perd un jardin par semaine, mon petit coin là-bas, près de la Seine. Il perd chaque mois une friture, il y gagne quoi? La blessure d'une maison de 20 étages où l'on mettra les hommes en cage avant. C'était pas la même chose avant. J'y découvrais des choses, j'y emmenais Lulu et Rose dans mon petit coin de Paris. C'était ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie. Il perd ses lilas par centaines, mon petit coin là-bas, près de la Seine. Il perd ses Chinois, ses Arabes et tous ses vieux toits et ses arbres. Le soir, on dirait l'Amérique avec ses buildings fantastiques. Avant, c'était pas la même chose. Avant, j'y découvrais des choses. J'y emmenais Lulu et Rose dans mon petit coin de paradis. C'était ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie. Et j'ai peur des fois quand j'y pense, qu'un beau jour tu sois sans défense, que tu perdes aussi l'innocence de tes grands yeux gris, que tu changes, que tu maquilles ton visage à tous les néons de passage. Je voudrais que tu restes la même chose, qu'on s'aime avant toute chose, même sans lilas et sans roses, toi qui remplaces mon paradis. Et puis ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie.
Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai un invité. Je suis en compagnie de Frédéric Magnien. Frédéric Magnien est plasticien, auteur, comédien. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous sur JTFM. Alors, Frédéric et moi, on avait envie de vous faire partager, ou peut-être de vous faire découvrir, des auteurs, des poètes, des poétesses palestiniennes. Donc, nous vous proposons une lecture pour cette émission à deux voix, où la poésie palestinienne est à l'honneur. Cette poésie palestinienne s'engage, disait Abdelatif Labi. Mais fuient les mots d'ordre. Elle cultive la colère autant que la douceur, la révolte autant que la compassion. Elle pratique l'humour et l'autodérision, mais ne craint pas d'affronter avec gravité les questions métaphysiques. Elle se tient debout face aux turbulences, qu'elles soient historiques ou intimes. Bref, entre ces vers, court une invite à ne pas céder.
Carte d'identité.
Inscrit. Je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Te mettras-tu en colère ?
Inscrit. Je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras-tu en colère ? Inscrit. Je suis arabe. Mon nom est commun, je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. Mes racines, fixées avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers, avant la croissance végétale. Mon père, de la famille de Larère, et non des seigneurs de Noujoub. Mon grand-père, un paysan, sans arbre généalogique. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. Ma maison, une hutte de gardien, faite de roseaux et de branchages. Es-tu satisfait de ma condition ? Mon nom est commun. Inscrit, je suis arabe, cheveux noirs, yeux marrons, signe distinctif, sur la tête une kefia, tenue par une cordelette. Ma paume, rugueuse, comme le roc, écorche la main qu'elle empoigne. Mon adresse, je suis d'un village perdu, sans défense. Et tous ces hommes sont au champ et à la carrière. Te mettras-tu en colère ? Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants, et tu ne nous as laissé ainsi qu'à notre descendance que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit ? Alors inscrit, en tête de la première page, moi je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne, mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde à ma faim et à ma colère.
T'es qui toi, t'es qui moi ?
T'es pas qui, t'es pas quoi ?
T'es qui toi, t'es qui moi ?
Mais toi t'es qui, t'es quoi ?
n'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? De la bavure
et décollé au mur,
et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi?
Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? Des selles en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? Des selles en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas.
Une fois
où ça, ça ne finira.
Mais tout ça,
c'est entre toi, toi et moi. T'es qui, dis-moi, c'était pas toi? C'était pas moi, dis-moi, t'es qui?
T'es qui toi? T'es qui moi? T'es qui toi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. Toi mais t'es qui moi si t'es pas moi, dis-moi t'es qui? T'es qui dis-moi si t'es pas toi, si t'es pas moi, dis-moi t'es qui?
Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui?
T'es qui dis-moi si t'es pas toi?
T'es qui moi?
Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui?
Et à propos de rencontres, j'ai eu envie de vous lire des histoires de rencontres. Et comme il faut être au moins deux pour se rencontrer, j'ai fait appel à un invité, Pierre Ostoya. Pierre est comédien. Merci Pierre d'être avec nous et bonjour.
Merci, bonjour.
Et surtout, merci de partager ce moment de rencontre avec nos auditeurs. Alors, des rencontres, il y en a de toutes sortes. Rencontres amoureuses, rencontres insolites, rencontres imaginaires ou rencontres improbables. Quelquefois aussi, mauvaises rencontres. Et puis, des rencontres fugaces. Mais quelle que soit la rencontre, elle laisse toujours une trace, une empreinte. Tout était prévu pour que ça marche entre nous. Il suffisait que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés. C'était le plus difficile à faire, se rencontrer. Mais, depuis, nous ne sommes plus jamais rencontrés par hasard. C'est comme ça, la vie. Si vous rencontrez un être humain, dans la foule, suivez-le. Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. C'est tout.
Je te reconnaîtrai aux algues de la mer. Je te reconnaîtrai aux lignes de ta main, au sel de tes cheveux, au profond des paupières. Je fermerai les yeux, à mieux demain. Je te reconnaîtrai, complice du soleil. Je te reconnaîtrai, tu viendras de très loin. J'arriverai enfin à trouver le sommeil, en suivant dans le noir la brise de ton parfum. Je te reconnaîtrai, à coup sûr ma féline, lorsque tu poseras sur mes premiers accords ton le soleil radant sur la toile sanguine, assise à contre-jour, la forme de ton corps. Quand voudras-tu et féline, quand voudras-tu conjurer mon sort? Sur la plus haute tour, je te reconnaîtrai au mouvement du vent. Quand la lumière viendra, je saurai que le jour est là, marqué des pas de celle que j'attends. Je te reconnaîtrai à coup sûr, ma féline, au mouvement que fait ta marche de velours, dans le soleil rageant sur la toile sans vie. Je te reconnaîtrai à coup sûr, mon amour. Quand voudras-tu souffler et faire? Quand voudras-tu conjurer nos sorts?
François se sont rencontrés dans la rue. C'est toujours délicat un homme qui aborde une femme. Elle se demande forcément, mais est-ce qu'il ne passe pas son temps à faire ça? Les hommes disent souvent que c'est la première fois. À les écouter, ils sont soudain frappés par une grâce inédite leur permettant de braver une timidité de toujours. Les femmes répondent d'une manière automatique, elles n'ont pas le temps. Nathalie ne dérogea pas à cette règle. C'était idiot, elle n'avait pas grand-chose à faire, et aimait l'idée d'être ainsi accostée. Personne n'osait jamais. Elle s'était plusieurs fois posé la question, ai-je l'air trop boudeuse ou trop paresseuse? Une de ses amies lui avait dit, mais personne ne t'arrête jamais, car tu as l'allure d'une femme poursuivie par le temps qui passe.
Quand un homme vient voir une inconnue, c'est pour lui dire de jolies choses. Existe-t-il ce kamikaze masculin qui arrêterait une femme pour asséner « Comment faites-vous pour porter ces chaussures? Vos orteils sont comme dans un goulag. C'est une honte, vous êtes la Staline de vos pieds. » Qui pourrait dire ça? Certainement pas François, sagement rangé du côté des compliments. Il tenta de définir la chose la moins définissable qui soit. Le trouble. Pourquoi l'avait-il arrêté, elle? Il s'agissait surtout de sa démarche. Il avait senti quelque chose de nouveau, de presque enfantin, comme une rhapsodie des rotules. Il émanait d'elle une sorte de naturel émouvant, une grâce dans le mouvement, et il pensa « Elle est exactement le genre de femme avec qui je voudrais partir en week-end à Genève. » Alors, il prit son courage à deux mains, et il aurait même aimé en avoir quatre à cet instant. Surtout que pour lui, c'était vraiment la première fois. Ici et maintenant, sur ce trottoir, ils se rencontraient. Une entrée en matière absolument classique, qui détermine souvent le début des choses qui le sont moins par la suite. Il avait balbutié les premiers mots, et subitement tout était venu d'une manière limpide. Ses paroles avaient été propulsées par cette énergie un peu pathétique, mais si touchante, du désespoir. La situation était tellement inconfortable qu'il s'en sortait avec élégance. Au bout de 30 secondes, il parvint même à la faire sourire. Elle accepta de prendre un café et il comprit qu'elle n'était pas du tout pressée. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa « Si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. » On n'avait pas le droit de boire un déca à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré et déjà s'installer une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Oui, le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi? De l'alcool? Non. Non, ce n'est pas bien à cette heure-ci. On pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça d'un coup. Même un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire, et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant? Le Coca-Cola ou tout autre type de soda? Non, pas possible, cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux, c'est de choisir entre deux comme... l'abricot, voilà, c'est ça. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte, comme si elle revenait d'une longue réflexion, la même réflexion que venait de mener l'inconnu face à elle.
Je vais prendre un jus d'abricot, je crois.
Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.
Hola, hola. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mieux plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Ah, on s'est connus tous les deux, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. J'ai revu un soir, oulala, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Des bagues à chaque doigt, des bracelets en tas, et puis elle chantait d'une voix qui cite au Manjola. Elle avait des yeux d'opale dans son beau visage de femme, son beau visage pâle d'un pas qui me fut fatal. Quand on s'est connu, on s'est reconnu, mais on s'est perdu de vue tous les deux, on s'est reperdu de vue, on s'est réchauffé quand on s'est retrouvé. Et pourquoi pas ne pas se quitter? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Notre émission, à présent, touche à sa fin, mais avant de se séparer, place au coup de cœur de Michel. Le morceau qu'il vous propose aujourd'hui, c'est Indigo, de l'album The Rite of Strings, le rite des cordes, avec Aldi Meola à la guitare, Stanley Clark à la guitare basse et Jean-Luc Ponty au violon. Que du beau monde, et rien que pour vous.
Thank you.
Notre émission « Je suis venue vous lire » se termine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine sur JetFM. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur la page de l'émission sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur JetFM.